L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle, Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière et cette semaine, numéro spécial en direct du Carrousel du Louvre pour cette convention Anacofi. On est ravis d'accueillir autour de cette table David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Éric Pinon est à vos côtés, le président de l'AFG. Bonjour Eric.
Bonjour.
Et puisqu'on est très éclectique, Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Au sommaire de cette édition, on va parler réforme du courtage, on va parler de l'ISR, de la finance durable, de l'épargne salariale, du maintien des rémunérations, autant de sujets brûlants. L'Hebdo Patrimoine, c'est parti. On démarre tout d'abord, messieurs, par l'actualité. On l'a vu, post-crise du Covid, on pensait que ça allait être terminé. On avait eu des études sur le moral des CGP et surtout la baisse ou pas de leur chiffre d'affaires. Ça s'était plutôt maintenu. Il y avait une certaine résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. J'ai envie de vous demander, avec ce début d'année poussif, en tout cas sur les marchés, cette guerre aux portes de l'Europe, comment vont les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine? David, est-ce que vous avez des remontées terrain?
Des remontées, mais pas de statistiques. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a eu le temps de faire une étude statistique ou un vrai sondage. On le fera certainement dès que possible, et dès qu'il y aura une pause, parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose en plein moment où ça se déroule. Ça n'a pas vraiment de sens, si ce n'est dire qu'ils le vivraient bien ou mal, mais on ne pourrait pas vraiment avoir d'éléments complémentaires. De ce que l'on entend, c'est difficile, ça nécessite du travail, mais ça ne semble pas être provoquer une crise chez eux dans leurs entreprises. Voilà. Il n'y a pas de panique.
Alors, ni pour le Covid, parce que c'était extrêmement rapide, cette espèce de. En tout cas, sur les bourses, on l'a vu, on a creusé un trou béant en mars 2020, ça a été comblé pratiquement un mois après. Et on a l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec cette invasion de la Russie en Ukraine. Les marchés ont pris peur très rapidement, jusqu'à 7-8 mars à peu près. Et puis, on rebondit, c'est-à-dire que finalement, sur un temps long, on le rappelle, qui est le temps de la gestion de patrimoine.
C'est trop rapide pour un client, c'est-à-dire que le temps qu'il réagisse, il a déjà l'impression qu'il a paumé ce qu'il avait à paumer. Alors la question, c'est jusqu'où ça continue. Mais toujours est-il que malgré ça, j'ai l'impression d'entendre plus de CGP dire que là, c'est quand même difficile, il faut être derrière les clients, il faut répondre à leurs questions, parce que c'est pas le Covid, on va peut-être pas leur refaire le coup quand même. Faut attention à pas faire des conclusions trop hâtives. Donc j'ai un peu plus l'impression d'avoir des remontées. C'est compliqué, il faut rester collé à ses clients parce qu'ils craignent cette crise financière. Voilà.
Impression, mais pas statistique. On le demande du côté de la CNCGP.
Oui, alors ce qu'on constate, c'est qu'effectivement pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est lourd. Puisque surtout depuis la fin du mois de février, on a vu après le confinement une habitude, un besoin des clients de se faire aider, renseigner, conseiller. Donc c'est ce que font nos conseillers au quotidien, ils ont l'habitude. Et puis maintenant, avec cette crise qui se joint à la crise, cette crise militaire, on va dire, qui se joint à cette crise sanitaire, en fait, il faut faire le travail, il faut continuer à faire le boulot. Le sujet,
c'est-à-dire sur le terrain, au contact avec ses clients.
Absolument. Mais il n'y a pas d'inquiétude pour autant. Pourquoi? Parce que les adhérents, plutôt les conseillers en gestion de patrimoine, sont formés. Ils sont formés chaque année, ils connaissent dispositif juridique, fiscal, le contexte financier, les fournisseurs. Donc finalement, une fois de plus, ce sont les mieux à même d'être auprès de leurs clients, leurs conseillers, les bons arbitrages si les arbitrages sont nécessaires. Et puis il ne faut pas oublier non plus que toute la stratégie patrimoniale, comme elle a été bien faite en fonction des besoins et des objectifs du client, tout est déjà calé à l'avance. Alors évidemment, la crise, on ne peut pas la prévoir, mais en tout cas, en cas de crash sur les marchés, on sait plus ou moins ce qu'est le risque qui est prêt à accepter le client. Donc c'est lourd parce qu'il faut expliquer, conseiller, mais tout ça est déjà rodé.
Pratiquement un flash crash qu'on a eu, mais qui est déjà absolument absorbée. Éric Pinon.
Non, moi je complète ce qui vient d'être dit par David et Nicolas. Je pense que, je veux dire, à tout malheur, les choses peuvent être bonnes. Et ce que vient de dire Nicolas, et ce qui est important dans ce qu'on a dit depuis ce matin dans cette réunion Anacofi annuelle, c'est la culture du long terme, la culture de la bonne allocation d'actifs, la culture de la bonne connaissance client. Alors bien sûr que personne n'imaginait que M. Poutine traverse la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Pour autant, si, et c'est peut-être l'occasion rêvée de faire prendre conscience aux gens que les conseils qui leur ont été donnés sont en bonne adéquation et que malheureusement, la linéarité des marchés financiers n'existe pas. Ça, c'est un boursier qui vous parle depuis 42 ans que je fais ce métier. On en a eu des crises. Mmh. On a quand même toujours, à un moment ou un autre, des sorties de crise. Et je pense que ce que vient de dire Nicolas est très important. Si vous avez des clients qui ont été bien conseillés, qui ont bien écouté les conseils qu'on leur a proposés et qui surtout ont été bien analysés par leurs conseillers, les comportements aléatoires, pour ne pas dire plus, des marchés ne sont pas avec des conséquences trop graves pour le long terme. Et je crois que c'est essentiel d'utiliser ces périodes de flou pour effectivement montrer aux gens que le conseil a bien pris en compte la destination, la durée, et qu'à la sortie, alors quand cette crise se terminera, je n'en sais rien malheureusement, mais on est dans une situation où on est parti pour montrer que les choix faits sont des choix qui sont effectivement sur le long terme corrects et supportables.
Bien sûr. Bon, après, vous le savez bien, les clients, ils auraient adoré être bullish en 2021, hein, quand la bourse est plus 30%, et puis très sécuritaire, bizarrement, avec ce premier trimestre un peu plus chahuté. Pour rester sur l'actualité, justement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Là, on parle beaucoup d'autres inquiétudes, hein, hors cette crise, hein, sortie de Covid, pénurie de matériaux, etc., qui sont renforcées. On a également un retour de l'inflation, ça inquiète, puisque on sait très bien que ça a un impact quand même sur les patrimoines, David Charlet.
Ah, c'est clair, si l'inflation repart. Alors, on se pose toujours la même question avec l'inflation. C'est une dose d'inflation, c'est bien. À partir de quand ça devient mal? J'ai pas la réponse. Donc on verra bien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il semble bien qu'on ait une reprise de cette inflation. Tant que ça ne deviendra pas une maladie non maîtrisable, ça peut être quelque chose de plutôt positif.
Donc, il ne faut pas que le dentifrice sorte du tube parce qu'on ne sait pas comment le remettre après.
Le problème, c'est qu'on a toujours dit que l'inflation était une maladie qu'on ne savait pas forcément couper quand elle était trop haut ou trop. Et évidemment, si on venait à imaginer qu'on ait 40 ou 50 ans d'une inflation de dingue, quand vous imaginez tout ce que ça déstructure, ne serait-ce que quand vous êtes employeur, le salaire que vous devez payer à vos salariés qui doit évoluer tout le temps. Enfin, c'est ça. Oui. On comprend bien.
Donner des sueurs froides à tout le monde.
Les taux des emprunts, vous empruntez et du coup l'acquisition. Ah merde, mais c'est vrai que nous en France on a ce taux d'usure. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, très bien.
Donc il faut le maîtriser.
Il faut le maîtriser. Le fait qu'il y en ait un peu n'est pas en soi un problème. Il faudra le maîtriser. Et puis écoutez, on nous a tellement dit que les gens ne savaient pas dans quoi investir dans un univers dans lequel il n'y avait pas d'inflation. Stop. On ne va pas se plaindre à tous les moments. La question c'est. Qu'il y ait un peu d'inflation, oui, et ça aidera certainement à avoir de la croissance sous réserve de tout ce qui va nous arriver avec nos histoires de capacité à se fournir ou pas certains produits tout court, c'est même pas combien on les paye, c'est les avoir. Mais il faut pas qu'elle bascule en maladie grave, parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient une sorte de fièvre en vérité. Et là, pour le coup, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Voilà.
On a un changement de paradigme brutal, un petit peu comme la saison là qu'on a eue. On est passé du printemps très chaud à un hiver très froid. Là, on a galéré pendant des années à avoir de l'inflation à 2%. C'était une limite un peu infranchissable. On n'y arrivait pas, quels que soient les montants injectés. Et puis tout à coup, on parle de 3, 4, 5% plus. C'est un peu déboussolant aussi pour les acteurs là sur le marché.
Oui, c'est un sujet passionnant parce qu'il va mettre à l'épreuve tout ce qui a été conçu par les conseillers en gestion de patrimoine avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, les sociétés de gestion. Autrement dit, le conseiller de gestion en gestion de patrimoine qui est habitué à traiter ces sujets, bon, pour lui, ce ne sera pas un problème. Celui qui est moins à l'aise parce qu'il est davantage spécialisé sur les aspects de fiscalité, il pourra s'orienter vers un des adhérents de l'AFG, par exemple. Alors, si vous êtes 600 adhérents, il y a 600 sociétés de gestion,
ils ne sont pas encore tous adhérents. Il y a 550 adhérents.
Oui. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que pour les épargnants, ce qui est génial, c'est qu'ils vont profiter de la richesse de l'offre.
Ils ont le choix.
Exactement. Voilà. Donc, s'ils considèrent qu'ils sont mal conseillés, orientés, ou qu'ils se posent des vrais sujets sur l'inflation, bah, ils iront voir quelqu'un dont c'est le métier, l'expertise. Et ça, bon, c'est vraiment appréciable dans un marché comme le nôtre. Et ça justifie aussi le fait qu'il faut des conseillers en gestion de patrimoine, il en faut former, il en faut beaucoup, et il faut aussi des sociétés de gestion qui sont en capacité de les conseiller et puis d'orienter les clients.
On a un bon panel hein, juste à côté, à deux pas d'ici, on l'entend un petit peu, 70 partenaires, hein, si je ne m'abuse, beaucoup de propositions et de diversification. On va y revenir. Eric Pinon, je voulais vous entendre sur ce sujet de l'inflation.
Moi, je vais redire ce que j'ai dit juste avant, c'est que l'inflation va donc faire comprendre aux gens qu'il y a un frottement lié à un taux qu'on ne connaissait plus, qui va amputer leur patrimoine s'ils ne prennent pas des choix long terme, intelligents. J'aime pas le mot risque, comme vous le savez, de longue date, mais une exposition sensible. Parce que inflation ne veut pas dire fin des marchés financiers. Autant la guerre d'Ukraine peut avoir des effets sur les comportements boursiers. J'ai sorti cette phrase l'autre jour qui m'a été transmise par des anciens quand j'ai commencé dans ce métier, qui avaient vu la Deuxième Guerre mondiale. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Bon, je sais pas quand le clairon sonnera. Toujours est-il que l'inflation, pour revenir à cette question, pour moi, c'est la prise de conscience des conseillers d'un côté et des clients de l'autre, que pour faire du résultat sur son patrimoine, il faut faire de la gestion longue, investie, avec du encore une fois, j'aime pas ce mot, mais de la prise de risque. Je crois que c'est essentiel. Et donc, nous sommes peut-être dans un paradigme fabuleux où c'est plus facile pour les conseillers et plus facile pour mes membres d'aller proposer des produits peut-être pas linéaires, mais en tout état de cause, à rendement positif versus l'inflation. Encore une fois, les deux supports essentiels du patrimoine, enfin deux des gros supports essentiels du patrimoine français, le livret A et le fonds en euros, sont nets d'inflation, tous les deux très, très, très négatifs depuis quelques jours.
Bien sûr. Ça commence quand même à infuser. On l'a vu notamment sur l'épargne salariale. On sort de la semaine de l'épargne salariale. On a vu que la part des investissements monétaires a baissé.
Exact.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut s'en féliciter.
Mais c'est la meilleure nouvelle du monde. On a enfin compris. Alors, l'épargne salariale, c'est un peu différent de la partie dont nous parlions avant, parce que l'épargne salariale est très souvent décidée par des comités d'entreprise, en particulier les DRH, comme on le dit souvent. Pour autant, je rappelle qu'il y a 3 ans, nous avons mis fin à l'option systématique du monétaire s'il n'y avait pas de décision d'allocation d'actifs. Nous avons des allocations d'actifs dites temporaires ou en fonction de l'âge, etc. Et donc ce chiffre que vous évoquez qui est essentiel, c'est le produit monétaire ne rapporte plus rien et donc on l'abandonne. Bah, c'est quand même une excellente nouvelle. Les gens sont un peu moins mal orientés, pour pas dire plus, qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps. Donc on est dans une situation où, comme on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec David et Nicolas, vous avez une progression énorme de la part des UC dans le contrat d'assurance vie. Alors après, je dis, comme je l'ai dit...
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous vos adhérents à l'AFG.
Oui, alors sauf que...
Est-ce que les flux sont là ou est-ce qu'ils sont en train de se retirer ?
Non, les flux sont là, mais la boutade que je fais, qui n'est pas une boutade, qui est un retour de vécu... Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, il y a encore une fois un peu plus de 40 ans, les gens me disaient « Je ne risque rien, je suis en SICAV ». Mais ça veut rien dire, ça.
Oui,
la SICAV monétaire, la SICAV action japonaise ou la SICAV action russe n'a pas le même comportement. Donc l'UC, unité de compte, il y a des UC sur n'importe quoi, sur des cacahuètes, sur la Russie. Donc attention à ne pas dire l'UC c'est bon. Par contre, et oui, effectivement, l'avantage de cette dérive, si je puis dire, de cette bonne dérive du fonds en euros versus l'UC, même si le stock est toujours encore majoritairement en fonds en euros, mais on est dans une situation où ça veut dire que les conseillers et que les clients comprennent que pour réussir à gagner de l'argent, ou en tout état de cause, versus l'inflation, à ne pas en perdre, il faut s'orienter sur des investissements longs, sensibles, intéressants. Et ça, je crois que c'est la meilleure nouvelle, que ce soit en épargne salariale versus autre question, ou que ce soit en UC en général.
La diversification, c'est la clé. Et c'est vrai qu'on a énormément le choix maintenant à travers les propositions des sociétés de gestion qui sont de plus en plus inventives. David Charlet, toujours dans l'actu. Il y a des élections qui se préparent. On va voter dans quelques jours. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a un certain attentisme en ce moment ? Qu'est-ce que, là aussi, peut-être, de ressenti, on a l'impression que c'est un peu bloqué, qu'on doit passer ce cap avant de peut-être trouver un nouvel élan.
Toujours. Quand il y a une élection qui arrive, vous avez toujours un blocage. On ne sait pas encore forcément ce que seront les textes, on ne sait pas encore forcément qui pilotera. On voit qu'il y a une crise. Il y a toujours eu une certaine dose d'attentisme quand une élection présidentielle et législative derrière arrivait. Et là, on a en plus des bruits de Covid, et là, on a en plus des bruits de bottes qui sont même des bruits de canon. Donc c'est normal qu'on ait un attentisme relatif lié à ça. Ceci dit, à la différence de ce qui a pu être vu dans d'autres périodes, je ne crois pas voir d'arrêt de projet qui était lancé. Donc c'est vraiment de l'attentisme, parce qu'il ne faut plus attendre très longtemps avant d'y voir clair. Et ce n'est pas un arrêt généralisé de tout lié à l'élection présidentielle. Je ne dis pas que certains ne sont pas en train de tout stopper parce que la guerre, parce que le Covid, mais voilà. Donc je pense qu'on a simplement un attentisme assez classique et pas très violent d'élection présidentielle. Écoutez, tout le monde parie quand même qu'on va se retrouver avec le même ou pas loin, au moins en matière économique. Voilà, tort ou raison. Je pense que ça n'a pas été aussi sûr que ça dans beaucoup d'élections présidentielles. Donc on a un attentisme normal, on verra bien, ce serait quand même idiot de prendre un risque. Et tout le reste de ce qui renforce l'attentisme n'est pas spécialement lié à l'élection présidentielle cette fois-ci. Et d'ailleurs, malheureusement, parce que les deux autres éléments qui font qu'il y a de l'attentisme ne sont pas des choses dont on peut se réjouir.
En effet, Nicolas Ducrot, sur cette période un peu toujours avant l'élection, on dit que c'est pas bon pour le business d'une manière générale.
Ce dont on est certain, c'est que on va avoir un projet de loi de finances rectificative au courant de l'été qui sera bouclé à l'automne.
Qu'est-ce que ça pourrait changer là pour vos métiers
très directement ? En fait, il y a un vrai, alors je dirais pas un risque, mais il y aura nécessairement une interrogation, nécessairement une action de la part des associations représentatives, des conseillers financiers et désormais des courtiers, puisque généralement, on sait que tous les 5 ans, le premier projet de loi de finances rectificatives porte des mesures essentielles qui concernent en priorité l'assurance vie, en priorité les successions, les transmissions d'entreprise, et on s'attend, même on est certain, parce que c'est une évidence, que tous ces points-là vont être repris par le candidat, en tout cas son équipe, le candidat qui aura été élu, et donc l'équipe qui sera en charge de ces nouveaux dossiers. Ils vont repasser tous les dispositifs. Et puis il sera de bon ton, parce que c'est comme ça, il faut bien marquer le coup, de proposer des évolutions. Voilà. Et nous, notre travail, mais ça
pas
sera...
Pas de nouveau Big Bang, enfin, parce que c'est, non, c'est, on non, non, plus non, d'avoir non, ce changement.
Non, il n'y aura pas de Big Bang, mais à chaque élection présidentielle, vous avez un travail qui est fait de reprise de l'ensemble des dispositifs pour voir ce qui peut être amélioré rapidement, pour essayer d'obtenir des résultats.
On a déjà des pistes, justement, sur ce qui pourrait être modifié rapidement.
On entend beaucoup de choses sur les droits des successions.
Droits des successions, ici.
L'assurance-vie, nécessairement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications. Alors généralement, c'est des modifications à la marge. On s'attend pas à un grand soir de l'assurance vie. C'est pas possible. Certainement sur les transmissions d'entreprise, pour faciliter encore, fluidifier davantage, parce que David parlait tout à l'heure de la pyramide des âges. Effectivement, on est en plein dedans. Donc il y a vraiment des sujets stratégiques même pour la France, pour savoir comment on organise le passage de relais au sein des entreprises. Moi, je pense que ça devrait annoncer des mesures dans cet univers-là.
Donc niveau... transmission, succession. Éric Pinon.
Moi, je partage ce que dit Nicolas sur la fameuse révision qui aura lieu effectivement en post-élection. Nous réclamons tous, et je l'ai fait moi auprès de 10 des 12 candidats pour être très transparent avec vous, une stabilité des choix. Nous avons un problème en France. Oui. Il fut une époque où, à peine arrivé, le nouvel entrant cassait ce que l'ancien avait essayé de mettre en place.
Alors, des tricotes qui a été tricoté.
Soit effectivement le tricoteur est toujours le même, et a priori il ne va pas casser ce qu'il a tricoté, d'autant plus qu'il avait dit lors de sa première élection qu'il ne toucherait pas dans son mandat ce qu'il a fait, les décisions qu'il aurait prises. Imaginons même que ça ne soit pas lui, et encore une fois je ne fais pas de pronostic à quelques heures de l'événement, on est dans une situation où je pense qu'on arrive en France, avec ce que nous connaissons depuis 2017, avec ce qui s'est passé sur les partis, j'allais dire installés depuis près de 30 ans, nous arrivons à un système à l'américaine.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
C'est que certains oublient que M. Clinton et M. Obama sont des présidents de gauche. Alors, bah, effectivement...
De gauche version US.
Hein. Eh ben, c'est bien le sujet. C'est est-ce qu'il faut être de gauche version US ou de gauche version extrémiste, sans citer qui que ce soit. C'est le débat. Et je pense que ce que nous vivons depuis maintenant 5-6 ans, ce que nous verrons peut-être le soir du 10, et en particulier l'éclatement ou le faible taux de certains partis qui ont gouverné, et ce pour l'un 14 ans et l'autre, alors il y a eu de la cohabitation, etc., je veux bien l'entendre, mais on va revenir sur des partis qui vont prendre le pouvoir et qui sont soucieux, et je crois que c'est ça le message que je veux passer là dans la question que vous posez, s'ils sont soucieux que l'économie française, que l'industrie française, que la compétitivité française soit maintenue. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, sur la partie économique, sur la partie positionnement, je pense qu'ils ont maintenant compris qu'ils avaient très peu de marge de manœuvre. Mmh. Par contre, et là, je vais peut-être laisser David rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur la table ronde que nous étions, c'est qu'il ne faut pas se laisser dominer par les Européens, par le système européen. Nous avons, nous, la France, un vrai challenge, et ce challenge, il faut le tenir, et quel que soit celui qui occupera le fauteuil de l'Élysée le 24 au soir, et quel que soit ceux qui auront le pouvoir en juin, effectivement, nous aurons un avenir, à mon avis, stabilisé.
Alors justement, on avait à ce micro Sébastien Raspiller, le chef du service financement de l'économie, direction générale du Trésor, qui nous disait, excellente transition, on était quand même dépendant de ce qui se passait au niveau supranational, au niveau européen, qu'il y avait un paquet de textes qui arrivait. Nous, on en repassait une couche parce que ces bretelles, ceintures, en fait, on est encore plus sécuritaire dans l'application des textes et... Eh bien, il en ressort des choses qui sont extrêmement lourdes à gérer en fin de chaîne pour l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine qui doivent adresser tout ça à leurs clients. Est-ce que ça va changer là aussi stabilité? Est-ce qu'on ne voit pas nous en rajouter une couche?
Là, on est parti dans une vague corrective de la vague de 2016-2018, parce qu'elle s'est pas étalée, elle n'a pas été que 2018. Donc on a une vague corrective qui s'annonce, oui c'est vrai, donc on peut nous en remettre une sacrée couche. Et c'est là que je dis qu'il y a des moments où quand vous revendiquez être pro-européen, ça n'est pas pour dire seulement oui. Il faut savoir dire non à ce qui pourrait générer un trouble. Mais j'utilise juste le terme de trouble, pas trop bien lequel, mais qui peut avoir des degrés divers, que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre écosystème, dans votre pays. Et rappelons-nous que sur énormément de choses, c'est l'unanimité qui prime, on nous le reproche assez dans notre système européen. Donc il y a un moment où il ne faut pas être les gentils et qui perdent, alors que derrière ça fait mal à leur économie, parce que les sujets qu'on a sur le feu actuellement, pour beaucoup de ceux qui nous concernent, ne sont pas des sujets où il y a un problème dans aucun des pays. Entendons-nous bien. C'est on décide qu'on veut faire la même chose dans tous les pays, sans pour autant qu'il y ait de réels problèmes dans quelques pays que ce soit. Alors du calme. Soit on trouve un compromis qui convient à tout le monde, soit c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, un pro-européen doit aussi à certains moments savoir dire non, parce que ce que l'on a sur la table là ne fera que faire du dégât à quelques-uns dans un pari. Le reste, oui, c'est vrai qu'on est en Europe, ça c'est tout à fait exact, c'est vrai qu'on va en avoir plein, mais il faut aussi faire comprendre aux autorités européennes qu'on a besoin de stabilité. C'est pas spécialement français le besoin de stabilité, c'est de partout. Je vous rappelle quand même que la loi qui fonde nos métiers aux États-Unis, où on nous rabâche des États-Unis qu'il faut copier, date de 49, corrigée en 91. Calmez-vous.
Oui.
Détendez-vous. Enfin, on se compare à un pays où on dit regardez eux, ça marche
mieux,
bien.
C'est mieux ailleurs en fait.
Non, c'est pas ça. C'est on se compare à eux en disant c'est mieux. Vous voulez de la stabilité, je vous en montre un. 49-91. Calmez-vous. Ouais. Nous, on a déjà fait combien de textes depuis 2007 entrée en vigueur. On a déjà fait deux principaux, puis deux autres sur l'assurance, puis doucement. Voilà, il y a un moment doucement. Un État fédéral, qu'on prend en exemple, il a montré que c'est pas la peine d'en faire autant et aussi souvent, et que par contre, faut laisser les choses mûrir.
Alors tiens, justement, ça fait le lien avec un autre sujet, qui est celui des rémunérations, souvent discutées avec des modèles qui s'affrontent. Nicolas Ducrot, on en est où? Qu'est-ce qui pourrait évoluer là? Est-ce que ça pourrait être réglementairement décidé ou c'est laissé encore au bon vouloir de chacun des acteurs.
Alors le sujet, effectivement, je confirme, je partage totalement l'avis de David sur le fait que les autorités européennes, notamment, manifestent ce besoin de toucher à tout en permanence, de revenir, parce que manifestement, elles ont besoin, moi je constate qu'elles ont besoin de s'occuper, manifestement, et elles ont besoin de revenir sur l'ensemble de ces sujets, alors que pour nous, ça semblait être bien réglé. Au niveau des rémunérations, en fait, c'est un sujet d'actualité, mais pour autant, nous, on considère que c'est un petit peu un sujet d'arrière-garde. Opposer le mode du commissionnement au mode des honoraires, ça a peut-être été d'actualité il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que par exemple, les adhérents de la Chambre, ils sont 61% à pratiquer les honoraires et également les commissions. Voilà. Le sujet, c'est qu'il faut que les clients soient au courant. Et surtout, il faut qu'ils soient d'accord. Et puis, à la limite, le client, s'il préfère rémunérer quelqu'un par honoraire, il peut s'adresser, par exemple, à un family officer, parce que généralement, on a cette population qui préfère être rémunéré par ce biais. Bah, très bien. Enfin, maintenant, c'est de notoriété publique.
Choix, là, aussi.
De plus en plus, effectivement, on a le choix. Et donc, c'est transparent. Il n'y a aucun, à mon sens, il n'y a plus vraiment de sujet. Ce qui est, pour revenir sur la notion de transparence d'information, alors Corinne Dremer était là ce matin, elle nous a indiqué que les travaux du CCSF portaient sur ces sujets et portent notamment sur le constat que le législateur européen a mis en place la directive MIF2. On travaille aussi sur la réglementation, sur le règlement PRIIPs, qui a pour objectif d'informer l'épargnant européen. Sauf qu'en bout de chaîne, on s'aperçoit que les informations qui doivent être transmises, publiées, ne sont pas tout à fait les mêmes.
Ouais, on s'aperçoit pas forcément compatibles.
Sont pas compatibles. Les fournisseurs donnent des informations ou n'en donnent pas. Donc finalement, les intermédiaires qu'on représente se trouvent aussi liés par l'information qui leur est transmise. Et que finalement, on s'aperçoit après quelques années de mise en application que l'intermédiaire qui veut bien faire, des fois, ne dispose pas toute l'information. Et le consommateur ou l'épargnant qui voudrait avoir cette information, déjà, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais n'est pas certain d'en disposer, ou même quand il en dispose, peut se retrouver en fonction que vous soyez sous MIF2 ou sous PRIIPs avec des informations de nature différente sur un produit, sur un même produit.
Sur le même produit.
Eric Pignon, là, sur cette réglementation, elle affecte aussi bien évidemment les sociétés de gestion.
Mais oui, comme ça vient d'être dit, on se bat depuis longtemps parce que une non-homogénéité de l'information perturbe le conseil, la souscription et l'investissement. Donc ce que disent Nicolas et David est très important pour nous, c'est que nous, nos produits, ils sont de la même nature. Mais effectivement, quand parfois ils sont labellisés, je prends un exemple sur l'ESG, labellisé ISR en France, labellisé en Belgique ou labellisé en Allemagne, on a l'impression que c'est des produits différents. Non, c'est le même. Donc on est dans une situation où oui, arrêtez, j'allais dire, je parle à la Commission européenne ou l'autorité qui applique les décisions européennes, de compliquer quelque chose qui est déjà compliqué avec un sujet que vous savez être mon grand sujet. Nous sommes face à des clients finaux, malheureusement à ce stade, assez peu éduqués. C'est déjà très compliqué de les convaincre de bien gérer leur patrimoine si en plus on nous met à chaque fois des bâtons dans les roues en étant avec des textes, comme vient de le dire Nicolas, PRIIPs, par exemple, il y a ce qu'on appelle les comportements risques des produits. Chez MIF et chez PRIIPs, le résultat ne donne pas, enfin le calcul sur ces comportements risques ne donne pas le même chiffre. C'est le même produit et chez MIF il est plus sensible, enfin censé être plus sensible que sur PRIIPs. Moi j'ai aucun problème, je dis que c'est pas bon. Donc oui, essayons d'avancer dans une logique de transparence et de clarté, et comme ça a été dit par Madame Dremer que Nicolas a cité, nous devons être clairs, transparents et non trompeurs. J'allais dire, c'est les cumuls de textes qui finissent par tromper les gens.
Alors tiens, justement, Eric, on reste sur vous avez déclaré récemment, la relance ne doit pas profiter uniquement aux très grandes fortunes. C'est un peu votre bâton de pèlerin. L'éducation financière, elle doit toucher le maximum, le plus grand nombre pour que les gens puissent prendre conscience de, finalement, la bonne gestion de leur patrimoine, si petit soit-il. Parce que,
merci,
encore une fois...
Ouais, merci de me poser cette question. Je vais parler politique un tout petit peu, non pas pour vous parler de mes choix ou des choix qu'il faut faire. J'ai été très frappé d'entendre des porte-paroles de certains candidats à l'élection présidentielle capable de dire on va prendre pour financer les sujets sociaux et autres les dividendes des grandes entreprises, les résultats des grandes entreprises. Jamais, au grand jamais, je refais ce parallèle avec les États-Unis, un des soucis du président américain, qu'il soit de gauche ou de droite, même si j'ai bien entendu votre remarque, être de gauche ou de droite aux États-Unis, c'est peut-être pas très différenciant, pour autant ça l'est, c'est qu'ils savent que 70% du patrimoine de leurs électeurs, de leurs administrés, sont en action. Il est hors de question pour eux de dire on va piquer les dividendes. Parce que ça va être la révolution.
Et c'est pas les affreux traders, c'est les retraités en Floride. Hein.
Mais exactement. Donc moi, je pense, par rapport à votre question, que oui, je dis qu'il faut que tout le monde en profite, et que si en 2027, à la prochaine élection, nous avons réussi, grâce à la loi PAC, nous avons réussi, grâce à de l'investissement long terme, à faire que les 70%, on va simplifier les chiffres, d'immobilier, sur les 30% restants, les 25% que représentent les 30% restants sont investis en actions et que plus de 5%, ce qui est le cas aujourd'hui, soient investis en actions.
Plus d'actionnaires.
Plus jamais, vous m'entendez bien, aucun candidat de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite ira toucher les dividendes. Pourquoi ? Parce que les gens pour qui ils vont demander leur vote vont être malheureux. Moi, je le dis, bien entendu, que celui qui fait du LVMH, on dit 5, j'entends ces slogans là dans la campagne, 5 familles, on dit 5 personnes, bon, il ferait mieux de dire 5 familles quand même, mais peu importe, 5 familles détiennent autant de patrimoine que 25 millions de personnes. Moi, je dis à ceux qui ont envie d'être aussi riches que M. Bernard Arnault, avec proportionnellement leur patrimoine, qu'ils achètent du LVMH. Une grande partie de sa richesse et de sa croissance de richesse vient de ses actions LVMH. Mmh. Sauf que comme on n'en achète pas ou on n'en fait pas acheter, eh bien, il y a un problème à la sortie. Donc, poussons les gens à faire de l'actionnariat, direct ou indirect, collectif ou pas collectif. Là, je parle d'une action LVMH, mais on peut parler de collectif. Mmh. Mais oui, vous avez raison. Mon propos est de dire, si on laisse les gens au bord de la route, les gilets jaunes de demain, et qu'on continue à leur faire de la spoliation d'épargne à 1% sur le livret A avec 4% d'inflation, bah je pense qu'on va être beaucoup plus ennuyé qu'on ne l'est aujourd'hui.
Et vous considérez, Eric, du coup, qu'on n'a pas quand même la même politique aux États-Unis, avec ce genre de débat qu'on n'entend pas.
Mais parce que l'allocation d'actifs...
Ils ont quand même intégré l'économie de marché.
Mais il y a des pauvres aux États-Unis, comme il y a des pauvres en France, et même peut-être qu'il y a plus de pauvres aux États-Unis qu'en France, d'ailleurs, parce qu'il y a moins d'aide sociale, comme vous le savez. Mais on ne vient pas chatouiller leur patrimoine, parce que c'est un patrimoine d'action.
Bien sûr. David, avec une meilleure connaissance, d'ailleurs, des gens qui ont leurs actions. On s'intéresse plus à l'économie.
Oui, sur la vision, sur les dividendes.
Sur l'éducation financière, d'une manière générale.
Non, l'éducation financière, je pense qu'elle est à faire, mais elle est déjà un peu commencée. On a au moins une politique, EDUCFI, bon, très bien, qu'on n'avait pas il y a quelques années. On essaye tous d'y apporter notre concours, qu'on soit membre ou pas des instances de ce programme EDUCFI. On ne résoudra pas le problème d'éducation financière de la totalité de la population, comme certains en rêveraient. On ne pourra pas le faire parce qu'une partie des gens ne sont pas du tout réceptifs et n'ont pas envie d'être éduqués financièrement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont envie de faire des bêtises. Mmh. Et donc, quand ils n'ont pas envie de faire des bêtises et pas envie d'apprendre, eh ben, ils ont envie d'avoir des conseillers. Voilà.
Donc, c'est pour ça que vous êtes là, tant mieux.
C'est pour ça que nous sommes là et on concourt par contre à faire cette éducation financière pour ceux de nos clients que ça intéresse, voire... apporter nos compétences dans des programmes. Une partie d'entre nous sont profs, sont enseignants, sont ce que vous voulez, en complément de leur job. Donc on apporte nos compétences dans tous ces programmes d'éducation financière et c'est très bien. Mais l'éducation financière, elle doit absolument progresser, ça c'est une certitude, mais ça ne sera pas l'alpha et l'oméga, car 100% de la population ne sera pas éduquée financièrement à un moment ou à un autre. Et donc, plus l'actionnariat, puisque tu parlais d'actionnariat, sera facile, plus on arrivera à diffuser, à leur faire apprendre quelques-unes des règles qui vont avec. Mais c'est véritablement un tout. Et franchement, pour avoir rencontré des clients qui en avaient mais rien à faire de ce qu'on pouvait leur raconter, la seule chose, c'est me faites pas perdre de sous. Si je casse ma pipe, faites en sorte que ma famille, ça se passe bien pour elle. ou en tout cas le mieux possible avec ce que j'ai, et puis c'est tout, et laissez-moi faire mon job. Et mon job, c'est, je ne sais pas, cuisinier. Enfin, celui qui m'a fait prendre conscience de ça, c'était un ingénieur du nucléaire
qui n'avait pas envie de s'en occuper,
qui avait pas envie
alors
de
qu'il avait l'épargne, parce qu'il y a aussi un sujet d'épargne, c'est sûr que c'est
il avait l'épargne, mais ça l'intéressait pas, mon truc,
de
il
s'en occuper juste que quand on a peu d'épargne. Allez, justement, sans transition, on va aborder, messieurs, un dernier sujet. C'est justement ces Français qui s'intéressent de plus en plus à ce qu'on appelle la finance durable, les investissements selon les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. On a vu le sujet de la gouvernance avec quelques scandales récents, c'était important. Bref, ce qu'on appelle d'une manière générale cette finance durable, comment elle est traitée aujourd'hui ? On sent que c'est un sujet qui monte, Nicolas Ducrot.
Oui, alors ce qui est rassurant, c'est que d'une part, ça intéresse les épargnants, et puis également, ça intéresse les conseillers. Et nous, on s'en est rendu compte parce qu'il y a une certification AMF finance durable qui vient d'être mise en place. On ne savait pas vraiment dans quelle mesure elle allait être bien perçue par les conseillers. Et on s'en est vite rendu compte parce qu'on a décidé, pour pousser justement ce thème auprès de nos adhérents, de permettre aux 100 premiers adhérents qui allaient se positionner sur la formation d'y accéder à titre gracieux. Et en fait, les 100 places ont été prises en 30 minutes. Donc pour nous,
mieux qu'un concert de rock.
Oui, c'est ça, absolument, absolument. Donc on a essayé, et à notre grande satisfaction, c'est un thème qui intéresse, et qui intéresse les conseillers, parce que justement, ils savent que ce sont les sujets de demain, et ils ont déjà des demandes de leurs clients qui sont de plus en plus précises. Donc ça confirme une entrée manifeste pour les épargnants et les conseillers.
Bon, c'est la hype, même si c'est peut-être une certaine dérive aussi. Ces sujets, c'est pour vous, Eric Pinon, c'est un feu de paille, ou c'est quelque chose qui va durer ?
Non, c'était un outil marketing, je l'avoue, ne serait-ce que pour ma maison il y a quelques années. Ce n'est plus un outil marketing, c'est une obligation. D'abord parce qu'elle est demandée par les investisseurs, ce qui vient d'être dit par Nicolas, et deuxièmement parce que nous devons tous contribuer à cette évolution. Alors, on a fait une dérive tout à l'heure à la table ronde, qu'il est évident qu'en cette période de guerre, refaire du financement d'outils militaires n'est pas forcément très ESG. Bon, ça c'est un sujet, mais pour autant, et je crois que ce qui est très important dans les travaux que nous mettons en place, nous, avec la Commission européenne de nouveau, et surtout avec les partenaires que sont les FRAG et l'ANC, avec M. De Cambourg ou avec M. Rosès, c'est de bien définir ce qui est norme extra-financière. Et ça, je crois que là-dessus, il y a plein de travail. C'est sur la mixité, c'est sur, effectivement, la protection des collaborateurs, le partage des richesses, etc. Donc non, ce n'est pas un feu de paille, c'est un vrai sujet qui est définitif et qui est surtout systématiquement réclamé, entre autres par une réglementation qui se met en place en juillet prochain, où nous serons, quand je dis nous, les conseillers seront obligés de poser à leurs clients la question: est-ce que vous voulez de la norme ESG dans votre investissement, ou au contraire, est-ce que vous voulez qu'on ne s'en occupe pas? Et la réponse, a priori, je vous la fais, elle est à 90%, pour ne pas dire plus. Oui, j'en veux. Alors après, comment vont-ils le faire, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas un feu de paille.
Un dernier mot, David, justement, sur cette finance durable qui va être aussi réglementée au niveau européen.
Non, ça s'implante, c'est plus une mode. Je pense que tout a été dit, on est sur quelque chose. Toutes nos associations mettent en place de la formation, travaillent sur la certification AMF ou d'autres. On a essayé de pousser une certification internationale. Bon, voilà, on voit que les modules de formation sont achetés. On sait que cet été, il faudra que chacun pose des questions là-dessus, intègre ça dans son conseil s'il ne le faisait pas déjà. Pour moi, on en est à la troisième phase de l'implantation de tout ce qui est ESG. Donc pas de problème, on en a beaucoup parlé déjà là, on en reparlera tout à l'heure. Enfin bref, on est dedans, et non, c'est pas un feu de paille. Ma vraie question est toujours la même: il faudra qu'il reste un univers non ESG, sauf à décider qu'on externalise ça hors l'Europe. Or, l'Europe semble avoir pris conscience qu'à tout externaliser, elle se tire une balle dans le pied. Voilà. Et ben, il y a un dosage à trouver là-dedans, qu'il appartiendra aux autorités politiques de trouver, parce que c'est limite plus politique qu'économique, ces choix-là. Économiquement, très honnêtement, je pense qu'on dirait tous qu'il faut que les deux univers soient sur notre continent et que ça serait vachement bien. Ouais. Politiquement, et pour d'autres raisons, on peut entendre autre chose. Ils devront en assumer les choix, nos politiques. Et nous, dans notre conseil, on fera le boulot qu'on nous demande de faire. L'appétence des clients est liée. On est à troisième époque du déploiement de l'ESG dans nos métiers. Enfin, c'est fait.
D'accord. C'est intégré. Merci messieurs, on va vous libérer. Merci d'avoir accepté de passer après votre table ronde physique au micro de Radio Patrimoine. David Charlet, président de l'Anacofi, Éric Pignon, président de l'AFG, Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP. Merci à Sophie Bernard pour préparer cette émission, à David Payan pour l'avoir réalisée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
Merci beaucoup.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.